À la une donc des journaux, Frédéric, l'escalade de la violence à Hong Kong.
Encouragé voilà deux semaines par les autorités de Chine continentale à cesser de jouer les nounous, la police de Hong Kong redouble de violence en effet à l'encontre des manifestants anti-gouvernementaux, c'est ce que constate le Figaro. 40 personnes ont été hospitalisées au cours du week-end. Parmi ces blessés figure une jeune femme qui pourrait perdre l'un de ses yeux touché par une balle en caoutchouc. Un policier a été légèrement brûlé dimanche par un cocktail Molotov, relate encore le Figaro, ce qui a fait dire hier aux autorités chinoises que le fait d'utiliser des objets extrêmement dangereux pour attaquer des policiers constituait un crime grave et révélait des premiers signes de terrorisme. Commentaire du Figaro, la définition du mot terrorisme par le pouvoir chinois est singulièrement large. En tout cas, poursuit le journal, alors que la crise qui secoue le centre de la finance asiatique entre dans sa 10e semaine de manifestations intenses, ni le gouvernement du territoire, ni les protestataires, soutenus par une grande partie des 7,5 millions de Hongkongais, ne semblent prêts à la moindre concession. L'escalade du conflit se poursuit donc avec en arrière-plan Pékin menaçant à demi-mot d'intervenir manu militari sans que personne n'y croie vraiment tant les conséquences d'une telle opération seraient désastreuses pour Hong Kong et pour la réputation de la Chine.
En effet, pas d'intervention directe de la part de la Chine, mais des pressions de Pékin de plus en plus insistantes en direction des autorités de Hong Kong pour qu'elles durcissent la répression.
Oui, c'est ce que pointe Le Monde. Pékin nous a donné son feu vert pour que la police soit plus dure. Expliquait une des leaders politiques pro-Pékin en fin de semaine dernière. Alors que la population de Hong Kong est majoritairement choquée par les violences policières, la police n'a pas hésité hier, relate le quotidien du soir, à exhiber sa nouvelle acquisition, à savoir des camions flambant neufs équipés de puissants canons à eau, d'ailleurs installés par une entreprise française. Les manifestants savent à quoi s'en tenir. Commentaire de Sébastien Weg, professeur de l'histoire intellectuelle de la Chine au XXe siècle à l'école des hautes études en sciences sociales. Réaction recueilli par Le Monde. C'est une ligne dure qui est adoptée, affirme-t-il. Avec le refus de toutes les demandes des manifestants, cela va se traduire par l'emploi des forces de l'ordre de Hong Kong, le soutien des forces patriotiques, c'est-à-dire le ralliement de toutes sortes de personnalités ou d'individus cooptés par la Chine et dépendants d'elle, à savoir des stars de cinéma ou encore des hommes d'affaires, puis le recours à des inculpations très dures par le parquet sur ordre du département de la justice.
À la une des journaux également, Notre-Dame de Paris et l'arrêt à partir de ce mardi du chantier de consolidation et de reconstruction de l'édifice. Un arrêt d'une semaine pour décontaminer le site recouvert de particules de plomb.
Et il était temps pour Mediapart. En effet, souligne le site d'information, la mairie de Paris a pendant plus de deux mois laissé élèves et personnels scolaires exposés à des pollutions au plomb avant de décider tardivement de nettoyer les écoles concernées. Le ministère de la Culture, chargé du chantier de la cathédrale, a fait de même en laissant pendant trois mois les salariés exposés au plomb. En effet, précise Mediapart, depuis le 9 mai, au moins 9 alertes, rapports et courriels ont été adressés au ministère de la Culture. L'inspection du travail et les contrôleurs de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, qui s'occupent également de la sécurité du chantier, n'ont eu de cesse de demander au ministère de mettre fin à cette situation dangereuse qui non seulement expose les salariés à des risques d'intoxication, mais génère en plus de la pollution aux alentours. Et bien malgré ces demandes répétées, le général Georges Lin, missionné par l'Élysée pour suivre l'avancement des travaux, et le ministère de la Culture, qui en a la charge, sont restés sourds aux alertes. Il aura fallu, déplore encore Mediapart, il aura fallu que le sujet devienne public pour que cesse cette inertie.
Pour sa part, Libération a pu se rendre sur le chantier pour observer l'avancée des travaux.
Un chantier exceptionnel, souligne Libération, mêlant technologie de pointe et savoir-faire artisanaux, soumis à des mesures strictes de protection. Une soixantaine de charpentiers, tailleurs de pierre, échafaudiers, archéologues et cordistes s'activent à sauver cet emblème mondial de la culture. En entrant et en sortant du chantier, tout le monde se douche, passe dans des pédiluves, précaution oblige en raison de cette fameuse pollution au plomb. Les plus gros travaux pour l'instant, pointe Libération, ont été la consolidation des 14 arcs-boutants du chœur qui ont été renforcés avec des cintres en bois pesant 8 tonnes et hissés sur les terrasses grâce à une grue. Spectaculaire et méticuleuse, l'opération a duré en juillet un peu plus d'une quinzaine de jours dès la reprise des travaux la semaine prochaine. Donc ce sera le tour des arcs-boutants de la nef.
Et puis ce coup de gueule du Parisien, Frédéric, coup de gueule contre les tomates insipides.
Les tomates sans goût, ça suffit, s'exclame le journal. Il y a bien longtemps que la tomate n'est plus considérée comme un légume de saison, soupire le Parisien. Sa culture sous serre chauffée et son importation massive nous ont habitués à la trouver toute l'année, avec une rondeur parfaite et un rouge uniforme flamboyant, tout cela au détriment du goût. En fait, souligne ce spécialiste du maraîchage, interrogé par le Parisien, les tomates sont comme l'amour, il faut les attendre, c'est ce qui participe au plaisir du goût. On les mange quand c'est la saison et après on passe à autre chose. Avant les tomates, c'est la saison des petits pois et après celle des courges. C'est formidable aussi les courges.
C'est absolument évident. Merci Frédéric. On continue le tour du monde de l'assiette, direction les États-Unis.